gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Rêve d'été. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre. Enregistrement CVRP.
Thank you.
voyage s'est passé dans un engourdissement complet entre le bruit de la voiture, l'odeur, le mélange d'essence, de cuir et le parfum de sa mère et l'ombre qui jouait avec la lumière. Lorsque la voiture s'arrête, Alexandre ne réagit pas. Il faut que sa mère lui dise de sortir pour qu'il le fasse. Une forte lumière de juillet l'éblouit. Il est obligé de mettre la main en visière pour pouvoir voir la façade blanche et majestueuse du grand hôtel d'Aix-les-Bains. Il suit ses parents qui vont vers l'entrée de l'hôtel. Suivent l'allée d'un petit jardin car l'entrée se trouve face au lac. Sa mère, tenant le bras à son père, est grande, mince, belle, malgré sa robe blanche de voyage et son chapeau voilette cachant ses cheveux blonds en chignon mode 1920. Elle tient avec sa main gantée une ombrelle. Son père, grand, maide, raide, en costume beige, tient à la main un chapeau. Alexandre devine son visage, autoritaire, blanc, les cheveux noirs plaqués, une petite moustache, et c'est lorgnon. Marchant un peu en retrait, se trouve son frère, un beau jeune homme de 22 ans, mince, le visage tendu, mais fin, avec des cheveux en bataille brun. Il porte le même costume que son père. Alexandre est ébloui par les couleurs pastel du jardin, le bleu lumineux du lac et du ciel. Enfin, ils rentrent à l'hôtel. Ils sont dans le hall d'hôtel où sont assis des gens autour de petites tables blanches qui parlent ou lisent. Un groom vient vers eux et les mène au concierge. Alexandre reste en retrait. Il est là de toute cette nouveauté et a hâte d'être seul. Enfin, on les conduit à leur chambre. Monte au deuxième étage. Il aimerait avoir une chambre bien à lui, tout seul. Mais l'on ne parle pas devant les domestiques. Suive un long couloir. D'abord, la chambre des parents. Puis celle du frère qui se trouve au fond du couloir. Et enfin la sienne. Juste à côté de celle de sa mère. Sa mère est avec lui. La pièce est grande, spacieuse. Il y a même un petit balcon qui donne sur le lac. Tapisserie à fleurs beige, rosée, meubles en merisier. Secrétaire, cabinet de toilette dans une ancienne alcôve. Les domestiques ont amené deux valises que sa mère va déballer. Tout en enlevant son chapeau et ses gants, elle lui demande: « Comment la trouves-tu ? » ? « Elle est bien ?» Elle lui sourit et lui dit: « Tu verras, nous serons très bien ici, mieux qu'à Biarritz. » Elle va ouvrir une valise pour ranger ses affaires. «
vois, je range moi-même tes affaires. Tu viens m'aider? Tu me passeras le linge pour que je le mette dans l'armoire.
Plus tard, tout est rangé. Élisabeth de Florey s'apprête à quitter la chambre.
Tu as faim? Non. Allonge-toi. L'on viendra te chercher pour le repas.
Elle l'embrasse et sort de la pièce. Alexandre se trouve seul. Il veut s'imprégner de son nouveau décor. Se met au milieu de la pièce. Il tourne lentement sur lui-même. Il est sensible à la lumière, aux couleurs. Il veut que la clarté qu'a la chambre lui soit familière. Alexandre, à 12 ans, est un rêveur. Ses cheveux blonds qui ondulent, sa peau blanche, ses yeux bleus profonds, ses joues pouponnes lui donnent moins que son âge, malgré sa grande taille mince et bien faite. Il est habillé d'un costume marine blanc. Après avoir bien regardé la pièce, il va toucher un à un les meubles, puis ouvrir la porte-fenêtre. Du soleil qui était tamisé par les rideaux se présente cru devant ses yeux et montre un paysage multicolore. Il s'avance jusqu'à la balustrade du balcon et regarde tout ça. C'est vert, c'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. Les montagnes qui reflètent dans le lac, les bateaux accostés, les arbres, les fleurs multicolores. En bord, les gens qui vont, viennent, sans se presser, comme un balai au ralenti. Après son jeune âge et grâce à sa sensibilité, il voit tout ça comme un tableau. Puis, petit à petit, il sent une fatigue l'envahir et veut aller s'allonger sur son lit. essaye de dormir, mais trop de nouveautés l'entourent. Et puis, il est inquiet. Que va-t-il faire durant toutes ses vacances? Il ne connaît personne ici. Il se met à regretter l'école. Oui, l'école, le lycée à Paris, où il était très bon élève d'ailleurs. Là-bas au moins, il était dans son milieu. Petit à petit, le jour s'estompe. On a frappé à la porte. Entrez. Et il se lève. Est entrée sa mère.
Tu t'es bien reposée.
Oui, maman. Il se blottit contre elle. Elle lui caresse ses cheveux.
Ça te plaît ici?
Il sent le parfum de sa mère.
Oui. Il faut aller déjeuner maintenant. Ton père et ton frère nous attendent.
Il se dégage. Elle se penche pour lui ranger ses vêtements.
Tu aurais dû changer. Tant pis, nous n'avons plus le temps. Viens.
Et ils sortent de la chambre. Ils vont au premier où se trouve la salle à manger. C'est une grande pièce avec de grandes baies vitrées. Les murs sont tapissés en vert pâle. Les tables sont recouvertes de nappes blanches. Sur chaque table, en plus du couvert, se trouve un bouquet de fleurs rouges. Des serveurs vont et viennent pour servir et desservir à parfeutrer et sans bruit. Les gens mangent en parlant à voix basse. Un petit orchestre joue en sourdine. Lorsqu'Alexandre et sa mère arrivent, ils sont tout de suite accompagnés par le maître d'hôtel jusqu'à leur table où se trouvent son père et son frère. Sa mère se met à côté de son mari et lui à côté de son frère. Le repas se passe presque en silence. Ils sont tous fatigués du voyage. Mais avant la fin du repas, le père dit:
« Je suis vraiment navré de vous le dire, mais je dois m'absenter quelques jours pour affaires. »
La femme le regarde surprise et irritée.
« Tu nous quittes déjà? Tu aurais pu nous prévenir. »
« C'est ce que je fais. »
« Avant notre départ, et me le dire à moi en premier. »
« J'ai voulu éviter une scène. Je souhaitais que vous quittiez Paris. »
Et pourquoi?
Parce que vous avez tous besoin de changer d'air. Et moi aussi. C'est pas parce que je pars quelques jours. Je reviendrai dès que possible.
Elisabeth soupire.
Et que vais-je devenir durant ton absence? Puisque tu me délaisses.
Tu n'es pas seule. Tu as tes enfants.
Pendant le dessert, Ferdinand dit à son frère:
« Tu veux venir avec moi faire une petite promenade ?»«
Oui. »
Ferdinand veut laisser ses parents seuls pour qu'ils puissent se dire au revoir et se réconcilier. Il se lève pour quitter la salle. De l'hôtel, la nuit est douce. Il suit le chemin qui longe le lac. Ferdinand aime beaucoup son petit frère, mais ne se sait comment le lui montrer. La différence d'âge intimide. Alors il essaye de raidir ses élans de tendresse, et malgré cela, Alexandre sent une grande douceur pour lui. Mais c'est celui qui ne le voit pas, car il le respecte trop pour lui prouver son amour. Une fois qu'ils se sont un peu éloignés des autres promeneurs, Ferdinand commence à parler. Et comme il est l'aîné, il se sent obligé de jouer au moraliste. Surtout, n'oublie jamais que tu dois aimer ton père et ta mère et ne pas les juger. Tu ne dois pas prendre part à leur différence. Cela ne nous regarde pas. Notre devoir est de les aimer sans les juger. Tu comprends? Oui. Marche encore un moment en silence. Puis Ferdinand s'assoit sur l'herbe au bord de l'eau face à la lune. Assieds-toi à côté de moi. C'est ce que fait Alexandre. Ferdinand lui dit, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. Besoin de changer de vie. Oui, un changement de vie. Cela lui fait peur. Chaque chose lui dit qu'une partie de sa vie s'en va jamais, qu'il ne sera jamais le même. L'inconnu est toujours un grand trou noir. Pourquoi? Lorsque l'on est bien installé dans son être, c'est le moment de changer. Malheureusement, nous ne vivons pas une vie, mais plusieurs vies différentes. Et à chaque fois, on a l'impression de mourir et de renaître avec une amertume d'un paradis perdu, même si ce n'était pas le paradis. Cela sans savoir pourquoi
ça l'empêche de dormir. Il a en plus de ses pensées, ses ombres qu'il ne connaît pas encore. Il a en plus de ses pensées, ses ombres qu'il ne connaît pas encore. Toujours l'inconnu. Demain matin, il se réveille dans un bain de lumière. Il a tout oublié ses troubles de la nuit et reste un moment ébloui, enveloppé dans ses draps blancs. Puis, il veut se lever pour aller à la fenêtre. Soulevant les rideaux, la clarté lui fait mal aux yeux. Toutes ces couleurs qui, à cause de la brume, semblent fondre, s'aplatir, devenir qu'une seule chose. Alexandre ressent cela d'instinct. Il est, ou a, l'esprit d'un peintre qui s'ignore, comme certains sont poètes, sans le savoir. On a frappé à la porte. Il sursaute, se retourne, se frotte les yeux. Entrez. C'est sa mère et une femme de chambre. Il accourt vers elle. Elle l'embrasse.
Tu as bien dormi, mon chéri?
Oui, maman. Une demi-heure plus tard, la famille est réunie pour le petit déjeuner. La mère est triste et soupire. Cela agace le père.
Tu as tout de même pas à m'en vouloir parce que je pars.
Non, bien sûr. Mais c'est toujours la même chose avec toi. Il faut toujours que tu ailles quelque part.
Eh oui, que veux-tu? L'argent se gagne en travaillant. Je peux pas prendre des mois de vacances, moi.
La mère soupire et se tait. Elle croit que son mari la trompe parce qu'un jour, elle a trouvé dans sa poche un mouchoir qui n'était pas le sien. Elle lui avait demandé un mouchoir
lui avait donné. Lorsqu'il vit qu'elle n'était pas à lui, elle ne dit rien, mais en souffrit beaucoup. Après lui avoir dit au revoir, la mère est retournée s'asseoir sur la terrasse. Ferdinand, qui la voit triste, s'assoit à côté d'elle. Il ne veut pas la laisser seule. Alexandre ne sait que faire au milieu de ces deux adultes. Ferdinand le voit, il comprend l'enfant et lui dit « Va te promener si tu veux. Je reste avec mère qui est fatiguée. » Sa mère sort de ses pensées et lui dit
« Oui, cela te fera du bien. Ne va pas trop loin et reviens avant 12h30. Fais attention à ne pas tomber dans l'eau et ne parle surtout à personne. »
Alors Alexandre, excité, sourit et se sauve en courant.
Avoir quitté les abords de l'hôtel, il marche en suivant un chemin qui longe le lac. Il aime marcher, le bruit de l'eau, rien que le bruit de l'eau. Il est habillé de blanc, il a chaud. La lumière, le ciel bleu, les branches d'arbres qui mettent une tache verte au milieu de tout ça. Il va sans savoir où il va, comme un rêve dans un rêve de lumière. Au bout d'un moment, il s'assoit sur un rocher. Il est près de l'eau. Il reste sans bouger, comme ébloui par le bruit. le mouvement de l'eau, comme ébloui, comme hypnotisé plutôt. Tout à coup, il entend vers sa droite et voit un enfant qui se baigne. Son déplacement dans l'eau est souple. Il ne voit pas Alexandre, mais Alexandre le voit qui se baigne. Son corps est long, mince, blanc. Son sexe est formé. Ses cheveux sont demi-longs, sont plaqués sur une tête ovale, très maigre, encore juvénile. C'est un jeune adolescent. Alexandre, après la surprise, est ébloui, car le nageur semble faire partie du paysage. Mais il se sent honteux et veut se retirer. Mais le garçon sort de l'eau devant lui. Ils sont tous deux surpris. Alexandre est comme paralysé et veut fuir en même temps. Le jeune est monté sur la berge. Il semble mécontent. Il lui demande « Que faites-vous ici ?»« Je n'ai pas le droit, c'est privé. J'habite la maison, un peu plus loin. » Il la lui montre. Alexandre se sent gêné, ne sait que dire. Alexandre se sent gêné. Il ne sait que dire. Puisque tu avais laissé lieu, tu risques la mort. Et dois subir des épreuves. Je serai toujours près de toi. La mort planera sur toi. Maintenant pars. Je suis le prince des ténèbres. Alexandre le regarde. Le soleil est en face de lui, tout ruisselant, le visage dur. Il est ébloui, on dirait un dieu. Pour lui, c'est impossible qu'il soit le prince des ténèbres. Impossible, c'est plutôt le prince de la lumière. Je ne vous crois pas. Le jeune adolescent fait l'amour et lui dit « Tu ne me crois pas ? Tu verras, je serai toujours près de toi, mais tu ne me verras pas. Mais tu verras ce dont je suis capable. » Il regarde le ciel et dit « Je veux que le ciel s'obscurcisse et que le soleil tombe à l'eau. » Un nuage passe devant le soleil et assombrit l'adolescent et le lac. Alexandre prend peur et se met à courir, courir, courir. Arrivé à l'hôtel, Le ciel est revenu bleu et sa peur a été tellement forte qu'il court se réfugier dans sa chambre. Sur son lit, il se demande pourquoi il a eu si peur. Il ne comprend pas. Moi, je crois que c'est peut-être la faute de vouloir à tout prix que quelque chose se produise. Quelque chose qui le sortira du monde anodin. Et, à la première occasion, il y plonge malgré lui et veut absolument que ce soit vrai. L'adolescent devient énorme et cherche à le recouvrir de son ombre. Il se réveille en sueur, mélange le rêve et la réalité. Il retrouve sa mère et son frère pour le déjeuner et trouve sous sa serviette une araignée rougie, mais n'ose rien dire. Sa mère l'a vue et fait changer l'assiette.
C'est pas grave, mon enfant.
Et au domestique,
c'est inadmissible.
Pardonnez-nous, madame. Mais Alexandre n'a plus faim. Ne sait plus trop quoi penser de cet incident.
Il n'est pas formidable, c'est sans cesse de qui.
Comment cela s'est-il terminé, comtesse?
Eh bien, il va tout de suite refuser.
Durant toute la soirée, il reste avec sa mère et son frère au salon de l'hôtel à entendre un concert.
On dit qu'elle est extraordinaire.
Comme chanteuse ou comme femme?
J'avoue qu'en chant, je ne suis pas très connaisseur.
Notre chère princesse est loin de songer que parmi les invités qui sont ici, très peu s'intéressent à la musique.
Elle n'est pas dupe, je pense. C'est la pénitence qu'elle nous inflige pour nos péchés. Vous venez ici pour courtiser la comtesse Teresa Raffo. Pour pénitence, un Mozart, deux Schubert, quatre Liszt.
C'est vrai. Et comment voulez-vous que je le sache?
Oh, bonsoir. Dommage que vous arriviez si tard.
C'est ma faute, princesse. C'est moi le responsable.
Mais j'en suis tout à fait persuadée. Tant pis pour toi, tu as raté Mozart et un très beau Liszt.
J'en suis navrée.
Viens t'asseoir près de moi. Elle joue Chopin d'une manière admirable. Eh bien, ma chère.
Puis, il dit au revoir à sa mère et à son frère pour aller se coucher. Là, il voit la voie ouverte, les vêtements à terre, en désordre. Le lit défait, il voit au milieu des draps des vers de terre. Cela le dégoûte, il a envie de crier, il est allé chercher sa mère. Il s'apprête à quitter la pièce pour aller la chercher. Lorsqu'il voit sur la table de nuit un papier plié, il va le prendre. Et le déplie délicatement. Il lit. Surtout ne dis rien à personne. Tu sais ce dont je suis capable. Ta vie est entre mes mains. Il regarde autour de lui. Décide de tout ranger et de se taire. C'est sa façon à lui de le braver, de lui montrer qu'il peut tout supporter sans broncher. Il va remettre les vêtements en place. Il l'a fait bien comme il faut, car quelque chose lui dit qu'on l'observe. Puis, il va prendre les draps pour les secouer, pour enlever les vers de terre. Il veut les secouer dehors, au balcon. Et refait son lit. Puis se déshabille et se couche. Malheureusement, Sa nuit est peuplée de rêves. Il rêve tout ça d'une façon très forte. Il est couché dans son lit et les vers de terre sont sur son corps. Il sent monter le long des jambes, sur son sexe, entrer dans sa bouche. Il aimerait crier, bouger, mais il n'ose pas, car il pense que s'il bouge ou crie, les vers le dévoreront. Les vers entrent dans sa bouche et descendent le long de l'œsophage. Il étouffe, il a peur, il est horrifié. Il a envie de vomir cette chose visqueuse qui entre dans sa bouche, sous la langue et descend dans le trou. Il sent le choc mouvant des vers. Il a envie de vomir et aimerait les enlever de sa bouche, mais ses mains en sont pleines. Il se dit que s'il bouge, il va en avoir encore plus sur lui. Il est comme paralysé, la bouche ouverte, pleine de vers. Ses mains aussi, son corps. Peut faire le moindre râle. Il en a trop dans la bouche. Il pourrait peut-être serrer les dents et les broyer, mais cela le dégoûte encore plus. Des vers entrent dans son nez maintenant, comme sa bouche en la pleine. Il ne peut plus respirer par elle. Alors, il s'attaque au nez. C'en est fini, il va mourir étouffé par une multitude de vers. Il sent ces vers qui descendent dans l'œsophage, il a l'impression d'étouffer. Les vers qui entrent dans les nez lui font saigner du nez. Il étouffe, il a envie d'éternuer, mais ne peut. Ses yeux sortent de la tête. Se voit en spectateur et en victime. En même temps, il est la victime et le spectateur. Tout à coup, il étouffe. Il a les vers sur son corps, visage, nez, bouche. Fait l'effort surnaturel pour se sauver, lève un bras, mais elle voit avec effroi que ses mains, ses bras sont pleins de vers. Il est tellement effrayé et en sentant sa dernière heure qui se met à pousser un cri énorme. Oh! Ça le réveille en sueur dans son lit. Il a toutes les peines du monde à retrouver ses esprits et a peur de se rendormir, car ce rêve est tellement affreux et devenu plus vrai que la réalité, ou plutôt plus fort. Ce qui fait que ce qui l'a marqué le plus, ce n'est pas les désordres de la chambre, mais son rêve. Et ce qu'on a voulu lui faire subir, c'était ce qu'il a senti en rêve. Que le rêve était vraiment le mal, qu'on voulait lui faire subir. C'est pour cela qu'il va avoir une peur démesurée des supplices, des épreuves qu'il risque d'avoir. Il va se tenir sur ses gardes pour ne plus avoir à supporter une autre nuit comme celle-là. Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Rêve d'été, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistré.